retour sur la vacuité. On continue notre chantier. On est dans les mêmes espaces que ce qu'on a exploré déjà, je dirais, depuis le début de ces 5 retraites, mais surtout les 2 retraites précédentes. Donc là, ces 5 retraites, en fait, l'intention, c'était vraiment de... c'est presque comme j'ai cité un petit peu différents chapitres du bouddhisme sans vraiment rentrer dans les chapitres, tellement c'est vaste, pour essayer d'avoir un peu une organisation, une vision un petit peu plus complète de l'approche, de ce que je comprends de l'approche du Bouddha et de ma propre spiritualité. Et voilà, c'est un survol vraiment. Et il manque probablement beaucoup, beaucoup d'informations pour que ça soit cohérent. Et donc en fait, je ne pense pas qu'on va arriver à une cohérence là dans ces retraites. Et je ne pense pas que ce soit le but en fait, d'arriver à une cohérence. Je ne pense même pas que ce soit faisable d'arriver à une cohérence. Et comme il disait... Confucius, et je pense que c'est vraiment une attitude, en fait il y a vraiment une attitude et un parti pris dans la manière d'explorer la méditation et la spiritualité dans la proposition que je vous fais là. Et Confucius, il nous disait: je ne cherche pas à connaître les réponses, ce que je cherche, c'est comprendre les questions. Et qu'est-ce que c'est vrai, et qu'est-ce que c'est vraiment autre chose en fait. Si on peut arrêter de chercher à connaître les réponses, mais déjà à comprendre les questions, c'est crucial en fait de comprendre quelles sont les bonnes questions et qu'est-ce qu'elles veulent dire vraiment. Pas déjà chercher les réponses dès qu'on a entendu une question. On n'a même pas encore compris la question. Et je sens ça, je sens que moi, toute ma démarche, toute ma pratique est de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire cette question ? Donc c'est un chantier, j'ai utilisé ce mot chantier, souvent chantier, on imagine un chantier parce qu'on est en train de construire quelque chose ici, c'est un chantier de déconstruction, on déconstruit quelque chose, c'est ça le chantier. Et c'est complètement chaotique comme approche de l'esprit. En fait, le but est de créer de l'incertitude, donc de ne plus être certain de ce dont on était certain. Et c'est pas facile parce que, en général, quand on entend un discours ou quand on entend un enseignement, on va avoir tendance à essayer de le faire cadrer avec ce qu'on sait déjà. Et peu à peu, ça devient en fait une confirmation de ce qu'on sait déjà. Et on va l'entendre, c'est incroyable, mais on est capable d'entendre tout à fait autre chose que ce qui se dit, de manière à ce que ça colle avec ce qu'on sait déjà. Et du coup, on renforce ce qu'on sait déjà, au lieu de le remettre en question, parce que on ne fait pas comme Confucius. On cherche des réponses, on cherche du solide, on cherche quelque chose qu'on sait, sur lequel on peut s'appuyer. Et comme disait cette citation que je vous ai envoyée d'Emmanuel Kant, on reconnaît l'intelligence d'un homme à la capacité d'incertitude qu'il est capable de supporter, à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Et donc c'est vers ça, normalement, si tout va bien, en partant d'ici, vous avez plus d'incertitudes qu'en arrivant. Et c'est ça qui est le processus dynamique. Les certitudes, en fait, c'est fini. Il n'y a plus d'exploration, il n'y a plus de recherche. La recherche est finie une fois qu'on a une certitude, une fois qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on chercherait si on sait. Et une fois qu'on est rempli de savoir, on n'est plus du tout en recherche. Et là, du coup, on est bloqué. Donc il faut de nouveau... pour pouvoir aller plus loin, il faut détruire ce savoir qui a peut-être eu son utilité, qui était utile, qui avait sa place, qui nous a permis de progresser, mais il était juste un stepping stone, c'était juste un savoir provisoire qui était utile à ce moment-là, une manière de voir dans là où on en était qui était juste, mais que là il faut détruire pour pouvoir aller plus loin. Et là c'est une approche qui me parle énormément de moi, c'est l'approche de de René Descartes, qui nous disait qu'il faut cultiver le doute, il faut douter. C'est important de douter de ce qu'on sait. Est-ce qu'on le sait vraiment? Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Donc s'il y a de la confusion dans ce qui se dit, c'est parce qu'on ouvre des portes dans des domaines, dans des questionnements qui ne nous ont pas encore atteints jusque maintenant. Et il ne peut rien avoir d'autre que de la confusion. Et les questions profondes, peut-être qu'elles disparaîtront, pas parce qu'on y trouve des réponses, mais parce qu'à un moment, elles ne se poseront plus, quelque chose aura pris sa place. Et ça me fait penser à une autre citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, Niels Bohr, qui était un physicien, aussi prix Nobel, qui a été au cœur de l'émergence de des découvertes quantiques. Et qui disait, en parlant de la physique quantique, si vous avez bien compris ce dont je parle, c'est probablement que je me suis mal exprimé. Donc il prenait la responsabilité du fait qu'on avait rasé une vérité de manière à ce qu'elle rentre dans notre cadre conceptuel déjà établi. Donc ici, il faut vraiment se permettre de ne pas comprendre et d'avoir des nouvelles questions. Dans un discours qui s'appelle Citta-Matra, que le Bouddha a donné, qui est un discours qui a été fondateur pour toute une école bouddhiste, il a cette phrase complètement extrême, qu'il n'a pas eu très très souvent, dans laquelle il dit: les choses apparentes extérieures à l'esprit n'existent pas. Donc c'est très radical. Elles sont l'esprit sous diverses formes, apparaissant à lui-même. Corps, objet, lieu, toutes ces choses sont l'esprit seul, je vous l'affirme. Ouais. Les choses apparentes, extérieures à l'esprit, n'existent pas. Elles sont l'esprit sous diverses formes, apparaissant à lui-même. Corps, objet, lieu, toutes ces choses sont l'esprit seul, je vous l'affirme. Alors, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette phrase, et beaucoup de grands maîtres, juste après le Bouddha, dit éveillé aussi, disait qu'en fait, dans les discours, le Bouddha, il l'utilisait en fonction du public, il allait dire des choses en fonction de la capacité de compréhension de certaines personnes. Et ça, il disait ça parce que c'était comme pour secouer quelque chose qui était vraiment trop établi dans la croyance de le monde existe tel qu'il est. Mais après, il a eu des discours beaucoup plus fins, beaucoup plus métissés que ça. Parce que ça, c'est un point de vue extrême que d'habitude il évitait. Il n'empêche que ce que je trouve intéressant, c'est la question que ça pose, de nouveau, au niveau de la réalité des perceptions qu'on explore depuis quelques mois ensemble. Je vous rappelle la phrase de Poincaré, qui était le mathématicien français, quoi, j'ai cité la dernière fois. Une réalité complètement indépendante de l'esprit, qui la conçoit, la voit ou la sent, est une impossibilité. Même s'il existait, un monde aussi extérieur nous serait à jamais inaccessible. Donc c'est dans ces zones-là, on va dans les mêmes zones avec ces différents points de vue. Alors la vacuité, pour pouvoir dire les choses existent ou les choses n'existent pas, il faudrait déjà pouvoir mieux définir le mot existe et ce que ça veut dire. Et là déjà on est dans le jus. Et c'est là qu'il ne faut pas se précipiter. Que veut dire exister? Est-ce que, par exemple, un rêve existe? De quelle manière? De quelle manière est-ce qu'il existe? Quelle forme d'existence? Est-ce qu'il y a différentes formes d'existence? Est-ce qu'il y a des choses qui existent plus, des choses qui existent moins? Voilà, donc là, il y a tout un travail déjà au niveau de la compréhension de la question. Pour bien comprendre la question, il faut comprendre les termes. Dans le bouddhisme, le Bouddha utilisait souvent ce qu'on appelle le tétralème pour ce genre de questions. Et qui était utilisé aussi dans la philosophie grecque et qui, déjà dans l'Inde ancienne, avant les enseignements du Bouddha. Le tétralème, c'est quelque chose qui nous est absolument inconnu, malheureusement, parce que nous, on fonctionne avec le dilemme. On a deux réalités, deux possibilités à chaque question. La réalité existe ou n'existe pas. On n'en a que deux choix. Là, dans ces philosophies, ils en ont quatre. On peut dire que quelque chose existe, n'existe pas, à la fois existe et n'existe pas, ou n'est ni existant ni non existant. Alors c'est compliqué à articuler dans nos têtes parce qu'on a, c'est tellement autre que notre fonctionnement qui est hérité du fonctionnement scientifique, existe, n'existe pas. J'y reviendrai plus tard, ça. Mais donc, notre esprit est formé et voit toute chose d'une façon duelle. Deux. On a toujours deux possibilités. C'est-à-dire, par exemple, il est fumeur ou il est non-fumeur. Il est bête ou il est intelligent. Il est gentil ou il est méchant. On n'a pas la possibilité des deux à la fois ou de aucun des deux. Donc on va toujours voir intuitivement toute chose comme étant ceci ou cela. Et c'est extrêmement réducteur. Et c'est très difficile avec ce type d'esprit d'aller explorer la finesse de questions comme l'existence de la réalité. Existe, n'existe pas. Et le Bouddha tentait d'éviter ces extrêmes, ce qui n'est pas le cas dans ce Citta-Matra, mais en général, il tentait d'éviter ces extrêmes. Donc il y a une question, par exemple, il y a dans un texte, c'est un brahmane qui vient voir le Bouddha et qui lui dit. Le Bouddha, il parlait du non-soi. On disait le non-soi. C'est une simplification, en fait, quand il disait le non-soi. Parce qu'il faut bien dire quelque chose. Mais il ne voulait pas dire que le soi n'existe pas quand il parlait du non-soi. On est dans des zones compliquées. Allez-y tranquille. Mais le non-soi ne veut pas dire que le soi est existant ou non existant. Donc, on l'appelle la philosophie du non-soi. Mais c'est juste une dénomination. Mais quand on lui posait la question. Est-ce que le soi existe? Le brahmane vient et lui dit, alors est-ce que le soi existe? Pour lui, c'était très important, parce que dans l'Inde ancienne et actuelle d'ailleurs, il y avait Atma, l'âme, une identité propre qui allait de réincarnation en réincarnation. Et donc, il demande au Bouddha, est-ce que le soi existe? Et le Bouddha dit, on ne peut pas vraiment dire ça. Ah bon, alors est-ce qu'il n'existe pas? On ne peut pas vraiment dire ça non plus. Et le brahmane, qui connaissait bien le tétralème, parce que c'est dans leur fonctionnement, il dit, alors, ça veut dire qu'il est à la fois existant et non existant, peut pas vraiment dire ça non plus. Ah ben il est ni existant ni non existant alors. Mais non, on peut pas vraiment dire ça non plus. Donc il refusait les quatre. Et en faisant ça, il laissait la question ouverte et il ne déterminait rien. Et le fait de ne pas déterminer avait une dynamique qui permettait de ne pas figer le soi. Entre existant ou non existant, ou les deux, ou au cas des deux. Donc c'est dans ce cadre, dans ce schéma de pensée que prenait place la vacuité. Pour nous, c'est une des raisons pour laquelle c'est difficile, parce que pour nous, la vacuité, ça veut dire rien. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Pourquoi c'est tout ou rien? Parce que dans notre cadre, et ça donc, ça nous vient notamment depuis le XVIe siècle, depuis la révolution scientifique, et où la science a pris une direction, notamment avec Descartes, dans lequel la réalité est empirique, c'est-à-dire que au départ, ça a changé assez rapidement, mais au départ, la réalité était, c'était ce qui est perceptible par un des cinq sens. C'est ça la réalité. Ce qui n'est pas perceptible par un des cinq sens n'existe pas. Donc là, il y a eu beaucoup d'autres systèmes avant de relation à la réalité, mais là, c'est celui-là qui a commencé à prédominer. L'empirisme. Ce qui n'est pas pesable, quantifiable, testable, observable, prévisible, n'existe pas. Voilà, la science a pris ce parti. Ça a vite tourné à autre chose, surtout à l'époque de Galilée, qui a commencé à faire des époques des expériences de pensée, l'atome aussi, qui n'était pas quelque chose d'observable, et qui quand même peu à peu a pris une place comme étant existant dans le monde de la science. Donc ça a vite changé. Mais quand même, notre pensée a été influencée par l'empirisme. Et puis aussi, un autre biais cognitif, donc un parti pris de la science, c'était que la réalité est singulière, il n'y en a qu'une. Elle est extérieure, il y avait le dualisme cartésien, donc il y avait l'esprit et la matière. La réalité, donc, c'est la matière. Elle est unique, singulière, il n'y en a qu'une, et elle est testable, quantifiable, expérimentable, sensible. C'est du monde du sensible, tout ce qu'on peut ressentir. Et parce qu'on a acquis cette forme de pensée, pour nous, on a réel veut dire solide, perceptible. Et pour nous, quand on entend vacuité, c'est l'absence de tout ce qui est solide, perceptible, c'est le vide complet. Mais vacuité ne veut pas dire vide. Dans l'esprit asiatique, vacuité ne veut pas dire vide. C'est pour ça que dans les textes, on entend le vide est plein, parce que ça ne veut pas dire la totale absence de toute chose. Et ils étaient très forts, les Asiates. C'est pour ça que le zéro vient de là. Le zéro vient de l'Inde. Et inventé par un Indien qui a appelé ça, je crois, il a fait un poème sur le zéro, qu'il a appelé ça l'ouverture des portes de l'univers ou quelque chose comme ça. Et le zéro a été un concept très très compliqué en Occident, qui a mis très longtemps à être accepté. C'était satanique le zéro. Le néant, c'était le diable. Dieu, c'était le un, le tout, le grand un, l'unité. L'absence, le néant, le zéro, mais c'était satanique. Il a fallu attendre, je pense, le 17e siècle pour qu'il soit accepté le zéro. Donc on a une difficulté dans notre système duel. Oui, non, avec le principe de vacuité, qui ne veut pas dire ce que nous, on est capable de comprendre avec notre fonctionnement actuel. C'est pour ça qu'il faut, il faut réouvrir, il faut réouvrir. Et la pratique du tétralème est magnifique aussi avec les gens, parce que c'est beaucoup moins jugeant. Je change de niveau complètement là, mais si on arrête de penser que lui, il est comme ceci ou comme cela, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture. Il peut à la fois être ceci et cela, ou ni ceci ni cela. Enfin, c'est beaucoup plus doux. Mais c'est un autre sujet. Là, j'en étais à la vacuité qui n'est approchable, à mon sens, que si on entend que la vacuité ne veut pas dire vide. Dans les cultures asiatiques, la réalité est moins solide. Chez nous, la réalité est très solide et du coup, la vacuité, c'est très vide. C'est les deux extrêmes. Dans les cultures asiatiques, la réalité est moins solide. Le concept de Maya, l'illusion, hein, ce monde est comme un mirage. Hein, c'est une phrase du Bouddha. Le monde est comme un mirage et la conscience comme un grand magicien. Et où il y a. En Inde, il y a Lila. Lila, c'est le grand théâtre. Ram Lila, c'est le grand théâtre de Rama, le créateur. Et les Indiens se sentent comme dans un théâtre, avec un rôle défini qu'ils ont reçu et tout ça. Mais ils se sentent dans un théâtre. Mais vraiment, On a du mal à imaginer ça parce que pour nous, on a l'impression que c'est des histoires. Mais ce n'est pas des histoires, nous aussi, on est dans une histoire. On est dans une histoire avec un mode de pensée, ils sont dans une autre histoire avec un autre mode de pensée. La façon dont ils pensent influe la façon dont ils vivent, dont ils se sentent et dont ils perçoivent, et nous de même. Nous, on sent un monde très réel, ils ne sentent pas un monde aussi réel que nous, aussi solide en tout cas. Et du coup, le monde étant moins solide, il y a plus de place pour la vacuité. C'est pas l'absence de tout, parce que le tout n'était déjà pas total. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est pas aussi solide que ça, ceux qui vivent. Il y a autre chose du coup. Alors, il y a une approche très classique. Il y a différentes manières d'approcher le principe de vacuité pour le comprendre, et elles sont, à mon sens, toutes à utiliser. La plus simple, peut-être, c'est. Allez, juste pour la nommer, il va d'abord y avoir la permanence. La permanence, la réalisation de la permanence peut nous faire sentir, peut désolidifier un petit peu la solidité qu'on a de la réalité. Quand on voit que tout a un début, une durée, une fin, un début, une durée, une fin, et qu'on est vraiment sensible à ça, peu à peu, le monde commence à nous sembler un peu plus inconsistant. Mais après, il y a une compréhension qui est à la fois simple, mais qu'il faut beaucoup pratiquer ou essayer de voir comme ça, c'est l'interdépendance. On en a déjà tous parlé, mais pour pouvoir voir l'interdépendance dans toute chose, là il y a une pratique en fait. Donc l'interdépendance, c'est le fait que, par exemple, un arbre ne va pas exister sans les nuages, ne va pas exister sans la montagne, ne peut pas exister sans l'univers, une chaise. Ne peut pas exister sans l'arbre, et du coup sans la montagne, et du coup sans l'univers, et sans le bûcheron qui a mangé du riz. Et peu à peu, on peut inclure la totalité de tout ce qui existe dans chaque chose. Cette chose existe parce que tout le reste existe. Cette chose n'existe pas en elle-même. Elle ne peut pas exister par elle-même. Elle est là parce que ça aussi est là. Et ça est là parce que ça aussi est là. Et tout ça est là parce que tout est là. Donc ça, c'est l'interdépendance. Donc ça enlève un petit peu de la solidité aux choses, comme si elles existaient par elles-mêmes. Alors on peut dire oui, un arbre, il existe par lui-même, il y a un point de vue où c'est défendable, et un autre point de vue, tout aussi défendable, on peut dire non, l'arbre n'existe pas par lui-même, il existe parce que tout le reste existe. Nisargadatta Maharaj, que j'aime beaucoup, vous l'avez souvent entendu, et sur ce thème dit, il n'existe qu'une seule réalité dans laquelle rien n'a d'existence indépendante. C'est une seule réalité qui émerge, on pourrait même la voir comme émergente en même temps. Là, il y a la notion de temps qui nous est un peu compliquée. Mais c'est une seule réalité, c'est tout, tout dépend de tout. Et donc, on peut dire que chaque chose, ça c'est un principe de vacuité, on voit dans chaque chose sa dépendance. C'est-à-dire qu'il est dépendant d'autres choses pour exister, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence propre. Il n'a pas une entité à lui. On peut voir ça dans notre corps, la forme de la bouche, par exemple, est dépendante du système digestif. La manière de mâcher, pour être dépendante aussi de l'existence des pommes et du fait qu'on a mangé de la viande, donc des animaux. On peut regarder, et c'est une pratique, et c'est en fait ce qui est intéressant de faire, c'est de temps en temps de prendre le temps de tracer des chemins comme ça. Avoir que ça n'existerait pas si ça n'existait pas, et si ça n'existait pas, ça non plus n'existerait pas, et ça dépend de ça pour exister, et peu à peu d'essayer de ressentir que toute chose existe en dépendance de tout le reste, et non pas indépendamment. Parce que intuitivement, on a l'impression que les choses sont indépendantes. On peut voir ça au niveau de la politique, c'est très clair. La politique chinoise va avoir un effet sur la politique ici. Toutes les politiques mondiales, en fait, sont interdépendantes. On peut voir ça au niveau émotionnel, où l'émotion que j'ai maintenant dépend peut-être de la personne que j'ai rencontrée, du type de pensée que j'ai eue et le type de pensée que j'ai à. Parle de mon père et de ma mère, et ça aussi, on peut remonter de génération en génération. Ça parle aussi du Covid et du contexte politique. Ça parle aussi du temps qui fait. Ça parle de l'heure de la journée. Finalement, cette émotion, on ne peut pas dire qu'elle a une existence indépendante. Elle est là parce que tout le reste est là. Donc ça, ce principe-là, c'est le principe de l'interdépendance. Et en apprenant à voir les choses comme existant en dépendance de tout le reste, on leur enlève un peu de leur solidité. On les rend un peu plus vides d'existence propre. C'est ça un des sens profonds de la vacuité, c'est vide d'existence propre. Ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas, ni qu'elle existe, ni les deux, ni aucun des deux. On est bien clair, on a tous compris. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'elle n'a pas cette existence que d'habitude, intuitivement, on lui prête, d'exister en elle-même. Du coup, ça change notre relation à cette chose. Ah, évidemment, après, on peut faire ça. Ici, je mélange vacuité et non-soi. Hein, les deux sont... Il y a la vacuité, on parle parfois des deux vacuités. Il y a la vacuité du monde extérieur et la vacuité du monde intérieur. Et donc, on peut se voir de la même manière. Dans quelle mesure est-ce que le soi existe? Dans quelle mesure est-ce que j'existe? Qu'est-ce que ça veut dire, j'existe? Qu'est-ce que ça veut dire, je? Hein, toujours à cultiver des questions. Et à ne pas y répondre, à chercher à mieux comprendre la question. Et si on cherche, on de cette manière-là, à la manière de l'interdépendance, eh ben on va avoir du mal à trouver quelque chose de nous qui existe indépendamment de tout le reste. On va avoir du mal à trouver un endroit de nous-mêmes qui a une existence propre. Un petit passage du philosophe écossais David Hume, qui dit « Lorsque j'entre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, » on sent déjà qu'il a un doute, hein, « je tombe toujours sur une perception particulière ou une autre, de la chaleur ou du froid, de la lumière ou de l'ombre, de l'amour ou de la haine, de la douleur ou du plaisir. Je ne m'attrape jamais à aucun moment sans perception. Et je ne peux rien observer d'autre que la perception. La douleur et le plaisir, le chagrin et la joie, les passions et les sensations se succèdent et n'existent jamais tout en même temps. Ce ne peut donc pas être de l'une de ces impressions, ni d'aucune autre, que l'idée de soi est dérivée. Et par conséquent, une telle idée n'existe pas. » Ça, c'est sa démonstration. Elle est questionnable. Elle est à questionner. Il est clairement empiriste. Hein, c'est-à-dire que ce qui est perçu existe, ce qui n'est pas perçu n'existe pas. Hein, donc c'est clairement une attitude empiriste. Voilà, donc 18e siècle. Toujours très, c'est fini l'empirisme pratiquement dans les niveaux scientifiques et philosophiques, pas chez nous gens du peuple, parce que il nous faut des centaines d'années en fait pour que notre esprit se transforme. Mais les théories empiristes comme moyen de connaissance ultime de la réalité sont éradiquées quelque part. Il y en a encore, hein, mais je veux dire, c'est largement remis en question, on va dire. C'est pas fini. Donc il est clairement empiriste ici, mais c'est quand même très intéressant son exploration. Toutes ces citations, je vous les enverrai. Mais je peux vous relire juste le début. « Lorsque j'entre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou autre, de la chaleur ou du froid, de la lumière ou de l'ombre, de l'amour ou de la haine, de la douleur ou du plaisir. Je ne m'attrape jamais à aucun moment sans perception. » Et je ne peux rien observer d'autre que la perception. Donc clairement, là, il cherche le jeu. Comme l'a fait Descartes auparavant, comme l'a commenté Nietzsche. Hein, je l'avais lu, ce passage aussi. Donc voilà, c'est cette recherche du jeu. C'est pas facile à dire, ça. Donc c'est pas évident de questionner le jeu. Le jeu qui est une sensation implicite, automatique, immédiate, inquestionnée, centrale. La sensation j'existe, c'est la base de tout notre univers. Il faut, c'est toute une vie juste de réussir à se poser la question, à remettre en question quelque chose qui semble d'une évidence tellement inquestionnable. Donc on a vu que un arbre existe en dépendance de tout le reste, que chaque chose, une chaise, que n'importe, on peut prendre n'importe quoi et on peut tracer des liens et voir qu'en fait cette chose dépend de tout le reste. Mais il y a aussi une autre forme de dépendance des choses, quelque part où un arbre va exister différemment en moi de comment il va exister dans le voisin. Par exemple, automatiquement, si je suis bûcheron, quand je vais voir un arbre, je vais voir des stères de bois, ou peut-être comment je m'y prendrai pour le couper. Moi, je coupe mon bois, souvent je vois un arbre, ça me gêne même parfois, parce que je vois comment je le couperai, voilà, et c'est une tournure d'esprit. Un biologiste va voir probablement quel type d'arbre c'est, pourquoi il pousse à cet endroit et pas à un autre. Il va avoir un regard tout autre sur l'arbre. Un enfant, lui, il va avoir un terrain de jeu. Le poète va y voir quelque chose de fantastique qui va l'inspirer. Le bouddhiste, il va avoir une manifestation de son propre esprit. Non, mais ça dépend vraiment de comment on fonctionne en fait. Et du coup, l'arbre dépend, la perception de l'arbre, donc là, on n'est plus à un niveau ontologique. Quand je disais l'arbre dépend de la montagne, du nuage, c'est un niveau ontologique. On va parler de l'ontologique, c'est-à-dire c'est la branche philosophique qui essaye de déterminer ce qui est réel, la réalité. Mais ici, c'est phénoménologique, c'est-à-dire comment l'arbre m'apparaît en moi. Et en moi, il va apparaître en fonction de comment je le regarde, bien sûr. Ça, c'est d'évidence même. Et donc, l'arbre, là aussi, l'arbre phénoménologique, l'arbre en moi, dépend de mon type d'esprit. Suivant que j'ai un esprit comme ceci ou comme cela, chaque chose, parce que là, c'est un arbre, mais tout, va m'apparaître comme ceci ou comme cela. Différent pour chacun. C'est une autre forme de dépendance. Et puis, il y a encore, on peut aller un peu plus loin. Prenons par exemple, un exemple qui est souvent pris, c'est l'exemple de l'arc-en-ciel. Je le trouve très parlant. Donc, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait un certain degré d'humidité, une petite pluie ou beaucoup d'humidité dans l'air, et le soleil sous un certain angle. Et à ce moment-là, il y a un arc-en-ciel. Donc, il y a un arc-en-ciel. Quelle est la nature de cet arc-en-ciel? Est-ce qu'il a une existence en lui-même? Est-ce qu'il y a une entité arc-en-ciel qui est là? Là, on peut clairement voir qu'en fait, l'arc-en-ciel, oui, il est là, mais il n'a pas d'existence indépendante. Il est là parce que la pluie est comme ça, l'humidité est comme ça, le soleil est comme ça. L'arc-en-ciel, on ne peut pas dire qu'il y a une entité arc-en-ciel qui est là. Donc, il n'existe pas indépendamment des conditions. Et c'est ça, une des définitions de la vacuité, c'est que, peut-être même la définition de la vacuité, c'est que les choses n'existent pas à la manière dont on croit, elles n'existent pas indépendamment des conditions, de tout le reste. Ça ne veut pas dire elles n'existent pas, point. Il faut éviter ce piège-là. Ça, c'est le nihilisme. L'autre opposé, c'est le réalisme. C'est de dire les choses sont réelles, point, elles existent. C'est réel. Entre les deux, entre réalisme, nihilisme, entre réalisme et idéalisme, les choses ne sont qu'une idée, une projection. Donc, l'arc-en-ciel, on voit bien, on peut sentir avec cet exemple, parce qu'il est facilement accessible, on peut sentir qu'il n'y a pas une entité arc-en-ciel qui y a une existence inhérente. Il dépend des conditions. Il y a une autre condition nécessaire pour que l'arc-en-ciel soit là. En tout cas, une autre condition possible et à explorer, c'est le fait que je le vois. Est-ce qu'il y a un arc-en-ciel si je ne le vois pas? On en était là avec la dernière fois avec les sons. Est-ce qu'il y a l'arbre qui tombe, la Berkeley, sa fameuse question. Donc là, on en est là. Est-ce que l'arc-en-ciel dépend du fait que je l'observe pour exister? Est-ce que il dépend, par exemple, de la forme de mes yeux et du fonctionnement de mes yeux et des fréquences que mes yeux perçoivent? Est-ce que tous les autres animaux perçoivent aussi un arc-en-ciel à cet endroit-là? Alors si moi je le vois et lui le voit pas, qui est-ce qui a raison? Donc là, on voit que l'existence de l'arc-en-ciel n'est pas aussi solide que ce qu'on pourrait croire quand on dit « il y a un arc-en-ciel ». Voilà, on remet en question la solidité. On désolidifie. Qu'est-ce que c'est vaste, hein? Ah, j'ai plein de directions là, je vais par où là? Donc le... Si on revient au dilemme, le dilemme existe ou n'existe pas, les choses sont ou ne sont pas, être ou ne pas être. Si on revient vraiment à la nature dilemme qui est dans notre fonctionnement, on voit que ça solidifie énormément. Mais on a la chance là d'avoir, de vivre à une époque où cette solidification s'écroule. Comme je disais, au niveau de la révolution scientifique et tout ce qui a suivi après, déjà on a eu Galilée très fort qui a apporté qui a commencé à intégrer des lois reconnues scientifiquement alors qu'elles ne sont pas observables. Bon, déjà, je le disais, il y avait eu l'atome, hein, et puis l'électron, et tout ça, c'est toutes des choses. Personne n'a jamais vu un atome, hein, c'est beaucoup trop petit. On n'a jamais vu. Hein. Mais Galilée, il a introduit la notion que grâce à des expériences de pensée, on pouvait découvrir des lois de la réalité, des lois qui fonctionnent et qui sont cachées à nos yeux et qui sont cachés, et même il a introduit la notion que nos sens nous trompent. Et maintenant, au niveau de la science moderne, fait peu confiance à ce qu'on perçoit directement comme la science d'Aristote où en fait c'était une explication de ce qu'on perçoit à la science. Maintenant, en fait, non seulement la science n'est plus une explication de ce qu'on perçoit, mais c'est-à-dire qu'on ne peut plus se baser sur ce qu'on perçoit pour expliquer, mais en plus, on a une défiance par rapport à la perception, parce que très souvent, on va dire, la perception nous trompe. Et un exemple de ça, c'est cet exemple bien connu de Galilée, quand il s'est questionné sur la chute des corps. Et sur la chute des corps, ce qui s'est dit, en fait, il dit, donc vous dites que... un poids plus lourd tombe plus vite qu'un poids léger. Okay? Et alors, il a fait une expérience de pensée. Il a dit, ok, donc, si on accroche... Si, donc, vous dites qu'un objet lourd va tomber plus vite qu'un objet léger. Ce qui veut dire que si on accroche un objet lourd à un objet léger, il devrait tomber plus vite vu qu'il est plus lourd. Ils sont ensemble. Si on accroche une plume à un marteau, une corde, il devrait tomber plus vite parce que le poids de la plume et de la corde s'ajoute au poids du marteau, mais en même temps, la plume tombant plus doucement, elle devrait freiner la chute du poids plus lourd. Elle devrait faire parachute. Et donc, il y a un bug. Dans cette compréhension, elle n'est pas possible parce que, par la logique, on découvre que ce n'est pas possible, donc ça ne doit pas être dû à la masse des corps qui chute plus vite. Et c'est de là qu'il trouve d'autres lois, notamment la gravité. Enfin, il parle de la gravité, de l'air, du freinage dû à la résistance de l'air. Et il dit donc, il formule l'hypothèse que dans le vide, les corps tomberaient à la même vitesse. Et c'est... sais pas moi, 200 ans après, 300 ans après, que Apollo 15, ils ont fait l'expérience sur la Lune, hein, puisqu'il avait parlé d'une plume et d'un marteau. Ils ont lâché une plume et un marteau et c'est tombé à la même vitesse au sol. Et donc il a compris en fait, déjà le vide était une théorie absolument très controversée et personne n'avait jamais vu du vide, personne n'avait jamais réussi à créer du vide. C'est Pascal qui a créé le vide et du coup il a créé le thermomètre pour la même occasion. Ça c'est une autre histoire. Mais Galilée à son époque, le vide, c'était juste une théorie, mais il a dit dans le vide, les corps vont chuter à la même vitesse. Ça a été vérifié quelques centaines d'années plus tard. Donc là, Galilée a été la personne qui a introduit un changement fondamental dans la manière d'approcher la connaissance de la réalité, c'est-à-dire qu'on utilisait l'expérience de pensée. Et depuis, un des grands maîtres de l'expérience de pensée, ça a été Einstein, il partait dans tous les sens, lui. Il imaginait. Donc là, vous voyez, de nouveau, il faut douter. La base, c'est de douter de quelque chose qui a l'air évident, que les corps tombent différemment selon leur masse. Ça paraît d'une évidence, c'est difficile d'en douter. Et pourtant, il en a douté. Et Einstein, de la même manière, a fait énormément d'expériences de pensée qui sont super intéressantes. Il y en a qui sont très très rigolotes. Je vous le disais, il y en a où il s'imaginait, ça c'est quand il était gamin, assis sur un rayon de lumière, et il se demandait ce qu'il voyait. J'expliquais donc déjà dans une retraite comment c'est grâce aussi à des expériences de pensée et à un questionnement continu. C'est ce qu'il disait de lui-même, Einstein. Il questionne quand il a une question, elle ne le lâche pas. Elle ne le lâche pas la question. Elle est là tout le temps. Elle travaille doucement, elle travaille pendant ses siestes, elle travaille. C'est constamment là pour lui. Et c'est comme ça que. Il a réussi à solutionner son problème au niveau de la gravité qu'il avait avec la relativité restreinte qui n'incluait pas cette force de gravité. Ça ne fonctionnait pas. Et puis du coup, avec des expériences de pensée, en remettant en question, en doutant, en cherchant, il a trouvé un autre modèle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un modèle qu'il a trouvé. Et ce modèle, hein, donc le modèle de l'espace-temps et le fait que la gravité, ce qu'on appelle la gravité n'est pas une force mais une déformation de l'espace, c'est maintenant le modèle reconnu. Nous on ne l'utilise pas, on voit toujours la gravité, à l'école on apprend toujours la gravité parce que on ne sait pas encore trop à notre niveau qu'en faire de ce modèle. Il faut des centaines et des centaines d'années pour que l'esprit humain change. Mais la gravité de Newton, la loi de la chute des corps, parce que les masses s'attirent, c'est fini ça. Mais donc, il a créé un autre modèle, parce que finalement, c'est des modèles, ça ne parle pas de comment les choses sont en réalité, c'est juste des modèles. Il a créé un autre modèle qui fonctionne mieux. Et tout ça pour dire que dans la manière dont je comprends des enseignements du Bouddha ou une manière de comprendre une herméneutique, une interprétation des enseignements du Bouddha qui a été pour moi très fort mise en avant par Robert Béat, dont je vous ai déjà parlé, c'est que on peut voir tous les enseignements du Bouddha comme des expériences de pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si? On peut se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe si? Et donc, c'est, vous vous rappelez de l'histoire de Bahia? Je la redis je vais vous la relire parce qu'elle est intéressante à retenir. Donc vous vous rappelez, Bahia, c'est cet ermite qui va demander conseil au Bouddha parce qu'il sent qu'il ne va pas y arriver tout seul. Et le Bouddha lui dit, donc enfin, le bienheureux, c'était une des manières dont on nomme le Bouddha, le bienheureux dit, très bien Bahia. Vous devez vous entraîner ainsi. Et là, déjà, je l'avais dit la dernière fois, et je le redis, le mot entraîner est essentiel. C'est un entraînement. Ça ne va pas être un truc soudain, là, vous entendez ça. Alors pour Bahia, si, ça l'a été, mais parce qu'il s'est entraîné pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il a déjà poussé très loin sa recherche. Pour nous, il est peu probable que d'entendre juste ça, ça fasse Tchac, et puis hop là, on peut sortir de la tente, servir un petit thé, on n'a plus besoin du reste des discours. Donc enfin, le bienheureux dit très bien, Bahia, vous devez vous entraîner ainsi. Dans l'acte de voir, qu'il n'y ait que le simple acte de voir. Dans l'acte d'entendre, qu'il n'y ait que le simple acte d'entendre. Dans l'acte de sentir, qu'il n'y ait que le simple acte de sentir. Dans l'acte de connaître, qu'il n'y ait que le simple acte de connaître. C'est comme cela, au Bahia, que vous devez vous entraîner. Pour vous, au Bahia, quand dans votre acte de voir, il n'y a plus que le simple acte de voir, dans votre acte d'entendre, il n'y a plus que le simple acte d'entendre, dans votre acte de sentir, il n'y a plus que le simple acte de sentir, dans votre acte de connaître, il n'y a plus que le simple acte de connaître, alors vous n'êtes plus quelqu'un venant de ces choses-là. C'est-à-dire que ça ne crée plus la sensation je. Il y a juste son. Il y a juste connaissance. Il y a juste perception. Il n'y a plus je, j'entends. Il n'y a plus je vois. Il n'y a plus je pense. Le je est enlevé de l'expérience. Et alors il dit, lorsque vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas non plus ici, vous n'êtes pas non plus entre les deux, c'est simplement la fin de la souffrance. Parce que dans les fondements du bouddhisme, la souffrance ou la moindre insatisfaction vient du fait qu'il y a la sensation d'une existence individuelle. Alors que si on cherche vraiment, on ne trouve pas la source de cette sensation d'une existence individuelle. Si on la cherche, comme je le disais, à travers l'interdépendance, on voit que rien de ce qu'on est n'existe indépendamment de tout le reste. Donc cette sensation je, qui intuitivement est il y a moi et puis il y a le reste, est complètement illogique. Au niveau de la logique, elle ne tient pas debout. C'est pour ça que les philosophes, aussi en cherchant, une grande partie des philosophes en arrivent à la conclusion que le je n'existe pas. Qu'il est induit, comme le disait Nietzsche, qu'il est induit par la pensée. C'est une erreur de grammaire, disait Nietzsche. Hein? C'est ça qui vous rappelez du texte. Hein? Il disait le je est une erreur grammaticale. Parce qu'il y a une action, automatiquement, toute action nécessite un sujet, et donc on ressent un sujet à cette action. Et bien là, le Bouddha, il dit, on va faire une expérience de pensée. Essaye de voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe si tu apprends à enlever le je de l'expérience d'acte d'entendre, dans l'expérience d'entendre. Il n'y a plus un je qui entend. Il n'y a plus un je qui voit. Il n'y a plus un je qui ressent. Il n'y a plus un je qui pense. Une pratique. Une expérience de pensée. Alors pour pouvoir pratiquer de cette manière, bien sûr, il faut avoir déjà une compréhension conceptuelle de, c'est-à-dire qu'il faut avoir la sensation qu'il m'est permis de douter. Si j'ai la sensation, mais non, 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 c'est inquestionnable le jeu. Alors, parce que peut-être on est séduit par le bouddhisme ou la pratique, on peut essayer, mais c'est pas assez fragilisé encore. Et du coup, il faut que ça devienne questionnable. C'est Descartes qui disait dans son discours de la méthode, qui est un livre fantastique, un livre de self-help, de développement personnel, en fait, où il explique comment il fait pour évoluer et apprendre. Comment, en fait, c'est super intéressant, hein, il explique comment il utilise la logique pour approfondir son intuition. Il questionne son intuition avec la logique, de manière à ce que son intuition devienne de plus en plus fine, précise, profonde. Et alors, j'en disais quelque chose d'autre de Descartes. Oui, voilà, il disait donc que pour douter, C'est être capable d'imaginer un autre scénario. Donc on a quelque chose qui paraît inquestionnable. Eh bien, il faut trouver une manière de dire, et pourtant, il se pourrait que, parce que, hein, de nouveau comme Galilée, et pourtant, il se pourrait que, parce que. Voilà. Et là, on trouve beaucoup d'inspiration dans les écrits du bouddhisme, de l'hindouisme, confucianisme, et je connais peu les autres, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de questionnements et de textes et d'affirmations qui peuvent secouer suffisamment pour dire, ah ouais, c'est vrai, en fait, ce truc-là, il y a moyen d'en douter. Et s'il y a moyen d'en douter, alors je pourrais aussi essayer de le voir comme ça. Mais il ne faut pas rester juste au niveau philosophique. C'est un grand problème de juste rester au niveau philosophique. Il faut aussi aller expérimenter cette manière de voir. Einstein, par exemple, disait, toutes ses compréhensions, elles ont d'abord été physiques. Il ressent dans son corps. Et puis parfois même, il a du mal à formuler ce qu'il a ressenti. Mais il a compris quelque chose dans son corps, d'abord. Et de la même manière, nous, il ne faut pas juste qu'on reste à la philosophie du non-soi, à la philosophie de la vacuité, à de mieux en mieux la comprendre, à comprendre sa validité, à comprendre la question, à comprendre pourquoi on peut se poser la question, à comprendre les bienfaits. J'ai pas encore beaucoup parlé des bienfaits, pourquoi se poser cette question. Mais il ne faut pas qu'on reste à ce niveau intellectuel. Il faut après ça qu'on en fasse l'expérience, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre à voir comme ça. Parce que c'est ça qui est fantastique, c'est que quand on voit d'une certaine manière, ça influe comment on se sent. Donc on peut faire l'expérience du non-soi en nous, en regardant la réalité à travers les lunettes du non-soi, à travers les lunettes de la vacuité. Et donc je vous propose de s'y essayer. Hein? Alors bien sûr, on va s'y essayer, ça va être très chaotique, on va peut-être avoir l'impression que ça fonctionne pas du tout, qu'on n'y arrive pas, tout ça. Ne laissez déjà pas la critique intérieure, les trucs là, interférer. Il n'y a pas besoin d'y arriver, ça peut évidemment prendre du temps, c'est très clairement en lien avec notre ce qu'on en comprend. Ce qu'on comprend va nous permettre d'accéder ou non. En fait, à ce genre de méditation. Mais allez-y un peu avec cette tournure d'esprit d'un enfant qui appuie sur tous les boutons quand il découvre quelque chose et juste d'essayer.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roburex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.